RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, avec vous bien évidemment. Et justement, on va le prouver une fois de plus avec vous au 32-16. Tout à l'heure à midi moins 20, ça y est, les blocages du périphérique, enfin les opérations escargot autour du périphérique parisien ont commencé. On a des bus et on a des camions. Donc vous êtes en train d'écouter les grandes gueules dans les camions, dans les bus. Eh bien c'est le moment de prendre la parole tout à l'heure à midi moins 20, puisque ce sont ces blocages et ces opérations escargot qui avaient été annoncées pour protester contre la hausse des carburants. On fera le point avec vous tout à l'heure à midi moins 20. Commencez à nous appeler au 32-16. D'ici là, on aura parlé de cette crainte qu'on peut avoir des attentats en France, avec l'attentat qui a été déjoué devant la Bank of America, et ce qui se passe dans les mairies RN, en particulier du côté de Carcassonne, où le nouveau maire Christophe Barthès, maire RN, a dit « Le drapeau européen, j'en veux plus. »
Quel
dehors,
bon sens.
Drapeau français, c'est le bon sens. C'est ce que dit Jean-Loup Bonamy.
Bravo.
La fierté patriote. Bah, vous venez en discuter avec nous au 32-16. D'abord, on va regarder ce qui s'est passé devant la Bank of America. Alors, c'est sûr que quand on voit le dispositif explosif, on peut se dire que c'est du bricolage. Mais quand même, on a du carburant, on a des explosifs, et tout ça, c'était destiné à exploser devant la Bank of America. Ça a été déjoué par les agents de la sécurité intérieure français.
Oui, on est près des Champs-Élysées. Il est 3h30 du matin. Il y a des policiers qui sont en patrouille et surprennent donc un homme en train de déposer un engin explosif artisanal et s'apprêtant à l'allumer avec un briquet. Il est arrivé à pied avec un complice, cet homme. Il prend la fuite. Bon, on a réussi à l'interpeller. Alors, pendant que le premier déposait le dispositif, le second était là pour filmer et photographier la scène avec son téléphone. Le parquet national antiterroriste trouve qu'il existe des similitudes entre ce qui s'est passé, cet attentat déjoué, et des opérations qui ont lieu un peu partout en Europe. Il y a eu plusieurs attaques qui sont revendiquées par un groupuscule islamiste considéré comme proche des gardiens de la révolution iranien. Donc ça veut dire que cette guerre en Iran bien nous impacte désormais directement sur notre territoire, même si nous, la France, on n'est pas engagé dans le conflit, avec une réplique et ce terrorisme chiite qu'on a connu dans le passé et qui semblerait de retour.
Qu'est-ce que vous en dites, Florence, ça t'inquiète ou pas?
Tu
crains un retour des attentats?
D'autant que depuis que la guerre a démarré, j'ai beaucoup croisé les militaires de Sentinelle, moi, dans les rues.
Je croyais les gardiens de la Révolution.
Non,
que tu fréquentes.
Les militaires de l'opération Sentinelle qui ont été renforcés depuis la guerre. Et à chaque fois que je les croise, je suis reconnaissante parce que, d'ailleurs, là, on voit que c'est grâce à des policiers que l'attentat n'a pas eu lieu. Donc, je suis reconnaissante des militaires ou des policiers. Mais l'autre jour, je les ai croisés au supermarché. Bon, ils avaient l'air d'être en pause, ils s'achetaient un sandwich. Mais je me disais, oh là là, là, je suis en train de faire la queue derrière des militaires armés. Quelle époque on est en train de vivre. C'est quand même pas très rassurant ou agréable. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je les croise, hier, je me promenais au soleil. Et pareil, je les ai vus devant moi. Ça a un peu refroidi mon après-midi dominical. Et je trouve que c'est un climat qui est anxiogène. Il y a une étude la semaine dernière qui est sortie sur les causes de pourquoi les gens veulent pas faire des enfants. La cause en tête, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est la peur de l'avenir et c'est pas très, ça fait peur quoi.
Vous craignez un retour des attentats, Charles, ou pas?
Non,
du tout.
Pas non, du tout. Pas du tout. Je pense que d'ailleurs cet attentat n'avait absolument aucune chance de prospérer. C'est pas un attentat au sens, c'est pas une bombe dans le métro ou quelque chose de comme ça. Je n'y crois pas tellement. Et je pense franchement que même si j'ai fait hurler peut-être, mais il faut être lucide sur le risque statistique de mourir dans un attentat qui est quand même très faible. C'est une menace qui est très contenue en France. On a des services de renseignement extrêmement performants.
Mais on a été frappé violemment dans le pays quand même.
Oui, mais on en a tiré les leçons.
Bien sûr.
Et moi, j'observe en tout cas que la justice est extrêmement active sur la question et que surtout la police et nos services d'investigation le sont tout autant. Donc je crois, on peut d'ailleurs s'en réjouir. Je pense que quand la police annonce qu'elle déjoue des attentats, je pense que c'est vrai. De même que quand on arrive à attraper des islamistes en voie en quête d'action, si vous voulez, pour reprendre le nom d'une belle émission. Je pense que c'est remarquable qu'on arrive à le faire, mais je crois pas, non. Je ne suis pas inquiet.
Je comprends, mais moi, je trouve ce qui est inquiétant quand même, c'est que un de ceux qui a été interpellé, un mineur, il avait été recruté sur Snapchat et on lui avait dit de participer à cette opération contre 600 euros. Tu vois, il y a une espèce de quand même de terrorisme low cost qui se met en place.
Au Brésil où
les attentats au couteau,
faire tuer quelqu'un pour 1 000 euros.
C'est
pour
ça que si tu veux, c'est heureusement que nos policiers, nos services de renseignement criblent et sont vraiment focalisés sur les réseaux sociaux et sur les boucles. Mais te dire qu'aujourd'hui t'as un gamin contre 600 euros qui est prêt à participer à mettre en plan
une bonbonne
de carburant et toi tu passes à ce moment-là tu la prends en pleine gueule. Moi ça m'inquiète quand même quoi, surtout dans le contexte du moment quoi. Jean-Loup.
Non mais moi j'ai plusieurs choses. Donc déjà c'était une bombe déposée devant Bank of America. À mon avis, ce qui va faire sauter la banque et ce qui menace plus Bank of America, c'est la bulle financière sur l'IA, sur les marchés financiers. Parce que le jour où cette bulle, elle va exploser, là pour les grandes institutions financières, ça sera vraiment très difficile. Donc c'est plus ça qui m'inquiète que en effet le travail de plier nickeler qu'on a vu là devant cette tentative.
Donc, Laurent Nunez a tort de prendre ça au sérieux.
Non, il n'a pas tort de prendre ça au sérieux, je n'ai jamais dit ça. Mais, tu vois, il y a peut-être des dangers plus graves. Deuxièmement, c'est que tu parles de retour des attentats. Alors moi, je ne dirais pas ça exactement comme ça, parce que c'est très différent des attentats qu'on a connus avec la vague Daesh. Déjà parce que la vague Daesh, en fait, c'était du terrorisme islamiste sunnite, alors que là, c'est très différent. Ce sont des chiites qui sont téléguidés par un État, l'Iran, avec des buts très différents, avec des modes opératoires très différents. D'ailleurs, les gars qu'on recrutait pour Daesh, on ne les payait pas. Hein. Ils cherchaient la mort
pour
en
la
martyr.
Cause. Ouais.
Donc là, tu vois, c'est une stratégie low cost, de même que l'Iran bombarde de drones à bas coût. De même, on recrute des mecs comme ça. Donc c'est extrêmement différent du terrorisme de type Daesh. Faut pas s'imaginer, faut pas s'attendre à des choses du type Bataclan. Non, c'est très différent. C'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes modes opérateurs, c'est pas le même public.
On peut s'attendre, par exemple, je suis désolé.
C'est pas la même idéologie. Les gardiens de la révolution, ça n'a rien à voir avec Daesh.
On peut s'attendre à des cibles, un terroriste qui cible des synagogues, des établissements juifs, par exemple, pour protester contre ce que c'est Israël sur place. On peut s'attendre, là, ils ont visé les États-Unis, mais ils peuvent viser Israël aussi
mais
c'est ce qui s'est passé. C'est là, puisqu'il y a une société d'ambulance juive qui a été visée, je crois que c'est en Grande-Bretagne.
Ne t'attends pas à un Bataclan bis. Et enfin,
très prudent,
dernier point, oui, on retrouve, c'est quand même une vieille histoire, puisque dans les années 80, il y avait déjà une vague d'attentats à Paris, téléguidée par l'Iran. Il y avait une guerre secrète Iran contre France. D'ailleurs, c'était Jacques Chirac qui était Premier ministre de François Mitterrand. Et tu avais toutes sortes d'affaires. Tu as eu l'attentat, je crois, de la rue de Rennes. L'affaire Gorgi, cet Iranien qui était détenu et dont les Iraniens exigeaient la libération. Donc on voit que c'est une vieille stratégie de l'Iran, une stratégie asymétrique du faible au fort et qui nous replonge 40 ans en arrière. Nostalgie années 80.
Nous sommes avec Jérôme Poirot qui est l'ancien adjoint coordinateur national du renseignement à l'Élysée. Bonjour Jérôme Poirot.
Bonjour Olivier, bonjour Alain.
Qu'est-ce que c'est que cette menace, là, cette espèce de terrorisme local, ça doit nous inquiéter ou pas, Jérôme?
Je ne sais pas si inquiet est le bon terme, mais enfin, oui, je pense qu'on peut être inquiet, parce qu'on a toujours la menace terroriste djihadiste de l'État islamique, ce n'est pas terminé. On a d'ailleurs régulièrement encore des attentats ou des tentatives avec les moyens du bord, des couteaux, des marteaux, des voitures, etc. Mais là, on a une deuxième source d'attentats potentiels, parce que ce qu'on a vu là, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est certes du low cost, ça aurait pu être spectaculaire si cette bonbonne, ce bidon d'essence avait explosé. Mais c'est aussi un message qui est envoyé à la France. C'est-à-dire, on fait ça, on l'a fait d'ailleurs ailleurs en Europe, on peut potentiellement faire plus. Et c'est ce que vous disiez à l'instant. Viser des synagogues, viser des diplomates, des militaires américains, des intérêts américains, et cette fois faire des morts. Je pense que là, c'est, ce sont des messages qui ont été envoyés, et l'Iran, depuis 79, l'Iran des Mollahs, a toujours été très subtil dans sa manière d'utiliser le terrorisme.
Donc il faut faire attention à ce côté un peu, la façon dont on prend ça de haut, c'est, ce sont des pieds nickelés, etc. Attention, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup mieux préparé, mieux programmé.
Bien sûr, les exécutants sont des pieds nickelés. Je pense que le type qui a été arrêté, il ne sait sans doute pas où est l'Iran et il ne connaissait pas Bank of America 3 heures avant. Mais c'est sophistiqué dans le sens où c'est décidé à Téhéran ou ailleurs. Il y a un tas d'intermédiaires pour qu'on ne puisse jamais avoir des preuves formelles que l'ordre a été donné à Téhéran. Mais s'ils savent faire ça, ce qui aurait pu être très, très spectaculaire, ils sont capables de faire des actions beaucoup plus sophistiquées. Et avec l'ensemble des victimes, bien entendu.
Mais là, est-ce qu'on est sûr que c'est l'Iran derrière ? Ou est-ce que c'est de la déstabilisation via la Russie ou autre, Jérôme Poirot ?
En fait, il y a deux hypothèses. Soit c'est un type qui s'est levé un matin en disant « je vais punir les États-Unis ». Je pense qu'on peut mettre de côté cette hypothèse. C'est évidemment lié à ce qui se passe en Iran. Alors, que l'ordre soit venu de Téhéran ou soit venu de Moscou, parce qu'on l'a vu ces dernières années avec les étoiles de David, les mains rouges qui ont été taguées sur les murs de Paris, les 5 cercueils déposés avec le drapeau français devant la Tour Eiffel, etc. Ils savent faire la même chose. Mais si c'est Moscou qui est à la manœuvre, c'est quand même lié à ce qui se passe en Iran, parce que c'est quand même à la fois une mise en garde et ça produit des effets quand même. On en parle et c'est normal.
Ces effets sur l'opinion, le but c'est celui-là, quoi. C'est de
c'est de montrer
d'inquiéter l'opinion, quoi. C'est ça.
Oui. Alors là, c'est pas antisémite comme les mains rouges ou les étoiles de David. C'est moins fait pour fracturer la société française. Mais c'est quand même pour faire passer un message qui est on peut faire mieux, on peut faire pire.
Et d'où l'intérêt quand même de ne pas prendre ça à la légère, quoi.
Ah non, personne ne prend ça à la légère,
hein. À part Jean-Loup.
Ni le gouvernement, ni les services de sécurité, et ni les médias. La preuve, on en parle et on en parle en des termes, je crois, qui sont appropriés.
Ça veut dire aussi, que pour le régime iranien, même si la France ne cesse de répéter par la voix de son président qu'elle n'est pas impliquée dans ce conflit, qu'on est là-bas simplement pour défendre nos alliés qui sont bombardés par l'Iran, donc on essaie d'intercepter les missiles qui visent le Qatar, etc. Mais malgré ce discours qu'on contient, pour les Iraniens, on est dans le conflit.
Ah ben pour les Iraniens, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Je n'ai pas noté qu'on appuyait au plan militaire l'Iran. Donc pour l'Iran, on est contre eux, bien entendu. Et puis Israël est un allié de la France. Il n'y a pas pire ennemi pour les Iraniens qu'Israël, au même plan que les Américains. Donc on est du mauvais côté pour eux, bien entendu.
Merci Jérôme Poirot, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ancien du renseignement national, Majid, conducteur de métro RATP. Bonjour Majid.
Oui, bonjour l'équipe, comment ça va?
Ça va Majid, qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le retour de la menace terroriste? Comment vous le vivez, vous, à la RATP? Dites-moi.
Alors, nous, on le vit mal dans le sens où on a une nouvelle note là qui a été faite à la RATP qui nous oblige maintenant, même si un colis suspect a passé sur les quais avec les voyageurs, donc avec la morosité ambiante, avec le risque ambiant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, en tant que voyageur, je peux comprendre que vous serez content de savoir qu'on passera quand même dans le sens où il n'y aura plus de retard, je suis d'accord. Mais le jour où l'incident arrivera, ou l'accident arrivera, il ne faudra pas venir pleurer.
Je crois que vous êtes sur la ligne 9, si je me souviens bien.
Oui, exactement.
Ah, je me souviens très bien.
Mais Majid, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous demande d'être beaucoup plus vigilant, alors, c'est ça?
Alors, on nous demande d'être beaucoup plus vigilant, sans pour autant prendre les mesures de sécurité nécessaires. Donc c'est assez schizophrène, on demande de rouler, mais dès qu'il y a un danger potentiel, on nous demande de rouler quand même.
Ce serait quoi les mesures de sécurité? On va pas fermer le métro?
Non, on va fermer la station certainement. On peut fermer la station. Ah bah bien sûr, s'il y a un problème, on peut fermer la
station. J'oublie mon sac, j'oublie un sac en plastique et on ferme la station.
Mais vous avez oublié votre sac en plastique, on ferme la station. Un terroriste a oublié son sac en plastique, on ferme la station aussi. Ouais. Bah bien sûr. Et ouais, le système fait qu'aujourd'hui, c'est les trains peuvent se retourner, donc partir dans l'autre sens, et il y aura peut-être une, deux ou trois stations de fermées, pas la ligne entière, vous voyez.
Majid, merci. Donc à la RATP,
combien de colis abandonnés, de valises, de sacs?
Majid, énormément. J'aurais tendance, sur le réseau complet, j'aurais tendance à dire peut-être un tous les deux jours.
Voilà, un tous les deux jours.
C'est énorme.
C'est le problème. C'est à cause de ça qu'il risque d'y avoir un jour.
Mais c'est normal sur les milliers de voyageurs.
Alors, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous craignez un retour des attentats en France? On en a discuté quelques minutes. Majid en a parlé avec nous à la RATP. Jérôme Poirot pour le renseignement. Oui, quand même. Vous dites oui à 70%. Dans un instant, une mairie, Carcassonne, un maire, Rassemblement National, Christophe Barthès, il retire le drapeau européen. Ce qu'il veut voir, c'est uniquement des drapeaux français. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça mérite une petite discussion.
Bravo.
Angoisse ou bravo? Ça mérite une petite discussion au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Ça vous dit de prendre la parole avec les GG, tant mieux. À 11h25, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est par le 32-16 que vous pouvez y arriver, notamment là pour commenter avec nous Carcassonne. La joie qui est devenue l'hymne européen. Sauf qu'à Carcassonne, le drapeau européen, on n'en veut plus. Le maire, nouvellement élu, le maire RN, Christophe Barthès, a dit le drapeau européen, le bleu et les étoiles, zou. Allez, à Fuera, ce qu'il veut, c'est uniquement du bleu, du blanc et du rouge.
Il a mis en scène d'ailleurs, dans une sorte de cérémonie, il s'est filmé, et il a tweeté « Dehors les drapeaux européens à la mairie, place aux drapeaux français ». Alors vous savez qu'il y a une loi qui existe sur le pavoisement des mairies, c'est une loi qui date de 2019, il y a une loi pour tout en France, la loi Engagement et Proximité. Selon cette loi, seul le drapeau tricolore a pour obligation d'être présent devant chaque mairie de France. Le texte ne prévoit aucune obligation de présence continue du drapeau européen. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais il doit être quand même placé obligatoirement un seul jour dans l'année. C'est le 9 mai, journée de l'Europe. Donc on verra si Monsieur Barthès, ce jour-là, le 9 mai, on sera tous à Carcassonne. On verra à Carcassonne si Monsieur Barthès respecte la loi ou s'il va jusqu'au bout de son idée. Est-ce que c'est effectivement utile d'enlever le drapeau européen? Je vois que Jean-Loup s'en délecte.
Mais je pavoise, justement. Eh bien, écoute, c'est une excellente chose, de bon sens, pour toute une série de raisons. La première, c'est qu'on avait dit au moment du conflit israélo-palestinien, pas de drapeau étranger sur les mairies. Bon, bah là, je constate en effet, avec le drapeau européen, la présence d'un drapeau étranger. J'ai l'impression de vivre sous occupation. Voilà. Sous occupation allemande, disons-le. Mais... parce que l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Mettre le drapeau de l'UE, c'est mettre, hein, Madame von der Leyen sera d'accord avec moi, c'est mettre le drapeau de l'Allemagne sur nos bâtiments. Ouais. Deuxièmement, comme tu l'as très bien dit, ce maire respecte la loi. Il ne fait rien d'illégal. Il ne fait absolument rien d'illégal. Et donc, je l'encourage à mettre le torchon germanique européiste sur sa mairie le 9 mai pour respecter la loi afin qu'on ne puisse rien lui reprocher et l'enlever le 10 au matin et on sera tranquille pour 364 jours.
Florent.
Et enfin, les Français, lors d'un référendum dont, hélas, on n'a pas tenu compte, mais il y a un peu plus de 20 ans, le 29 mai 2005, ont exprimé leur réprobation majoritaire, massive, face à cette construction antidémocratique qu'est l'Union européenne et qui nous plombe. Parce que Flora parle de réindustrialiser, mais je le répète... ça fait un milliard de fois que je le dis, mais tu ne peux pas réindustrialiser avec le marché européen de l'électricité qui plombe notre avantage compétitif et qui fait flamber les prix de l'électricité. Donc, à Fuera. Voilà.
Florent.
Bravo, monsieur le maire.
Comparer l'Union européenne qui a permis la paix depuis plus de 70 ans.
Elle n'a rien permis, c'est la bombe atomique qui a permis la paix.
Monsieur Bonamy, justement, de la paix sur ce plateau.
Comparer l'Union européenne avec l'occupation, c'est dégueulasse. Enfin, l'occupation, c'est la guerre et l'Union européenne, c'est la paix. Dans un temps où il y a nos voisins ukrainiens, le Moyen-Orient, plein de régions du monde qui s'embrasent avec la guerre, comparer la paix à la guerre, ça n'a juste pas de sens. Ceci dit, le RN nous prouve à chaque élection la même chose, c'est que les vieux démons du RN n'ont absolument pas disparu. Le RN, c'est un parti qui est anti-Europe. La tête du parti, c'est-à-dire Marine Le Pen, Jordan Bardella, nous fait croire que ça a changé. Mais dès que vous avez des élus, ils enlèvent les drapeaux européens.
Ils respectent la loi. Il ne fait rien d'illégal.
Est-ce que j'ai dit que c'était illégal?
En quoi c'est un démon?
J'ai dit que ça
en quoi
montre
faire quelque chose de légal, ça, c'est un vieux démon.
J'ai dit que ça montre que le RN est toujours aussi anti-Europe qu'avant. Et je vais vous dire pire.
Par ailleurs, c'est juste la position gaulliste traditionnelle.
Et je vais vous dire pire. Il y a un autre maire RN qui a enlevé un drapeau de l'Ukraine. Donc, non seulement le RN est anti-Europe, mais ils sont aussi anti-Ukraine. Si certains en doutaient encore, ça s'appelle un truc tout simple qui est la stratégie du bouc émissaire. Comme ils savent pas quoi vous proposer pour que ça aille mieux, ils disent l'ennemi c'est lui. Et donc l'ennemi c'est l'Union Européenne pour le RN, l'ennemi c'est la puissance israélo-américaine pour LFI, ça s'appelle le populisme. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi faire pour améliorer le quotidien des Français, j'ai pas vraiment d'idée en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pointer quelqu'un du doigt, ça s'appelle la stratégie du bouc émissaire, c'est vieux comme le monde.
Non mais surtout, Jean-Loup élucubré. Je suis d'ailleurs déçu de la part d'un... Ah ben non, tu es prof de philo, je te voyais professeur d'histoire, je ne sais pas pourquoi. Donc manifestement, tu es prof de philo et pas prof d'histoire.
Ça fait combien de temps que vous travaillez
Parce que non, mais comme il parle avec beaucoup d'autorité, y compris sur des sujets d'histoire, je pensais qu'il était prof.
Que je maîtrise un peu mieux que certains.
Manifestement, tu ne maîtrises pas du tout l'histoire. Parce que,
allons-y.
Dans notre histoire récente, toute la lutte des grands hommes de ce continent a été de faire en sorte que l'Europe existe.
Ah, et Margaret Thatcher, que tu idolâtres, était très anti-européenne.
Mais les Anglais sont dingues, Jean-Loup.
Ah bon, mais je te croyais thatcherien, Jean-Loup. Tu es le thatcherisme à la carte.
Les Anglais, si tu veux.
Un point pour Bonamy.
Mon pauvre chéri.
Si tu savais,
nos auditeurs, mais ils se bouchent les oreilles, là.
Mais nos auditeurs, ils veulent non référendum sur l'Europe.
Écoute la leçon du professeur
qui nous écoute.
Vas-y, Charles. Et le respect des anciens.
Tout à fait.
Je constate. Les Anglais sont fous dès qu'il est question de l'Europe. Ils sont dans une espèce d'amour-haine complètement dingue. Et d'ailleurs, le revirement des États-Unis les ramène en ce moment vers l'Europe. Que nous expliquent absolument tous les gens à peu près câblés sur cette planète? C'est que l'Europe, si elle veut survivre au mastodonte américain qui va garder sa domination mondiale, qui est remontée comme jamais, qui a un potentiel colossal, et à la Chine, qui est en train de prendre l'avantage sur un certain nombre de secteurs, j'ai pas besoin là de te faire un dessin en matière technologique, industrielle, etc. L'Europe, son seul, les pays d'Europe, leur planche de salut, c'est d'être complémentaires au sein de l'Europe, de faire bloc, et de faire bloc suffisamment pour peser par rapport à ces mastodontes. Et on est obligé de faire ça.
L'Allemagne achète des avions F-35 plutôt que des avions français.
Y a des détails
le Danemark
comme ça.
Achète des avions F-35 plutôt que des avions français.
Mais tu verras qu'à l'avenir, ça va pas. Tu verras que ça va pas continuer comme ça, vu ce que nous font les Américains.
Ok, Nostradamus.
L'Europe, c'est un très grand marché qui peut être très profitable à nos industries. Les pays européens sont plutôt complémentaires. La France, notamment, a un vrai avantage en matière militaire parce que on est, en gros, l'armée européenne, c'est la nôtre. C'est nous qui avons la meilleure armée. Les Allemands ont d'autres qualités sur le plan industriel, etc. Donc, en réalité, l'Europe, elle nous aide. Et moi, je pense aussi que l'Europe, elle nous protège en France de nos mauvaises passions. Et que si on allait vers davantage d'harmonisation à l'échelle européenne, on aurait sans doute moins de fiscalité, on aurait sans doute moins de charges, on aurait moins de dettes.
Et on aurait une armée surtout.
Et donc on serait. Non mais on a une armée, mais
européenne.
On gagnerait à s'harmoniser au niveau européen.
L'Europe, propre en bête. Un garçon aussi intelligent que Charles Consigny, dès qu'il s'agit d'Europe.
Mais c'est marrant comme les anti-Europe sont, croient dur comme fer à leur truc, et à un niveau qui tient de la secte, si vous voulez. C'est-à-dire que je remarque que vous êtes impossible à faire changer d'avis.
Mais c'est valable pour
en
toi
même
aussi.
Temps, pardon, à l'échelle de, t'as le droit de vouloir être dans le même club que Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan.
Et que 55% des Français.
Et tous ces souverainistes. Moi,
non,
je
les Français
constate,
sont pas anti-Europe, ils veulent juste que l'Europe.
Je préfère être avec ceux qui ont fait l'Europe.
Mais oui, tu préfères être avec Gabriel Attal.
Vincent, ils sont pas contre l'Europe.
Vincent est avec nous. Contre
7 Jean Monnet, qui était un agent américain.
Bonjour, Vincent.
Bonjour à tous.
Salut Vincent. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du maire de Carcassonne?
Alors, juste un petit message pour Flora. Là, par exemple, moi, je suis de Locon, donc un petit village à côté de Béthune. Hein, j'étais déjà intervenu sur votre plateau. La maire qui est en poste là en ce moment n'a pas d'étiquette et elle a enlevé le drapeau européen. Donc, c'est pas parce qu'elle est Rassemblement National ou pas Rassemblement National. Je vous avoue que j'ai pas encore pensé à lui poser la question. Mais, par contre, moi, je vous dis, oui, je vote Rassemblement National. Hein. Je peux comprendre, moi, par exemple, dans mon métier, et même quand je vois les à côté, hein, dans mon métier, quand je vois les normes européennes qu'on me met dans mon métier, c'est des normes débiles, les unes que les autres, les plus débiles les unes que les autres. Quand on voit, donc, du coup, la France qui veut faire la vie encore plus blanc que blanc, me remet des normes sur mon métier.
En tant que tatoueur, famille, ouais.
En tant que tatoueur, exactement. Quand je vois aussi ce qui a été voté contre les agriculteurs et quand on voit Manon Aubry qui fait un grand câlin à la présidente de la Commission européenne et puis après qui vient pavoiser.
Et le Mercosur.
Voilà. Donc, et qui vient voir les agriculteurs qui nous dit ah ben non, c'est pas nous. Je suis désolé. Alors moi, je suis pas contre l'Europe. Pas du tout. Mais oui, effectivement, il faut essayer de peser contre les États-Unis, la Chine, tout ça. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir. Moi, mon petit niveau, ce que je réfléchis, c'est qu'on a 10 à 15 ans de retard.
Vous êtes contre l'Europe technocratique telle qu'elle existe aujourd'hui, quoi, en fait.
Exactement.
C'est ça, Vincent.
Exactement. Je suis pas contre l'Europe. Quand on voit que le Royaume-Uni, pays où je vais souvent, a quitté l'Europe, en fait, maintenant, je pense qu'il réfléchirait à deux fois. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne demande pas à quitter l'Europe. Juste qu'on nous lâche un peu. Quand on voit les normes européennes sur l'automobile, c'est de l'écologie punitive. Et on me cachera pas, alors,
ils ont été supprimés par ces 26 journées.
Oui, mais attendez. C'est bien parce que quand on habite dans des grandes villes, hein, comme Paris, Lille, tout ça, si vous voulez. Hein. Maintenant, moi, vous allez m'expliquer comment je fais quand j'ai... parce que la France me demande de refaire des enfants. Mais comment on fait dans une petite Twingo avec trois enfants? Parce que moi, j'ai trois enfants, ma femme et moi, dans une petite voiture, c'est compliqué.
Vous êtes pour l'Europe des peuples et des nations, une Europe démocratique, respectueuse des souverainetés nationales et des peuples.
Je suis totalement d'accord avec vous, Jean-Loup. Charles, pourtant, je suis toujours d'accord aussi avec vous, là, un peu moins.
Mais c'est l'Europe, ça le rend bête, alors qu'il est très bien sur les autres sujets.
Non, c'est un bon quand même, j'aime bien.
C'est un bon en général, mais l'Europe, ça le fausse son jugement.
Vincent, on va prendre l'avis d'Antoine. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Ingénieur en électricité du côté de la Haute-Savoie. Il a eu raison, le maire de Carcassonne, ou pas alors?
Alors moi, je soutiens totalement d'enlever le drapeau de l'Europe. Moi, j'ai milité contre l'Europe pendant des années. Et bon, aujourd'hui, je travaille en Suisse, donc j'ai arrêté de militer, on va dire. Mais pour moi, cette Europe, on avait voté non, on nous l'a imposée. Et aujourd'hui, on nous impose trop de choses. Et on a un marché déloyal au niveau de nos agriculteurs. Les tomates qu'on achète en Espagne sont moins chères, alors qu'en France, on en produit. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais et puis on peut parler de l'électricité aussi. Aujourd'hui, on nous impose un tarif d'électricité qu'on en produit nous. Et c'est quand même aberrant, cette histoire-là.
Ça, c'est vrai que sur le nucléaire, par exemple, quand on entend la présidente de la Commission européenne dire « Oups, on s'est trompé sur notre politique anti-nucléaire », qui était une politique complètement alignée d'ailleurs sur l'Allemagne. L'Allemagne qui, pour se passer du nucléaire quand même, achetait du gaz russe et se mettait entre les mains de Poutine. Enfin, il y a eu des choix d'ailleurs historiques ces dernières années, poussés d'ailleurs par les écologistes quand je parle du nucléaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est des impasses. Alors, les Allemands sont revenus en arrière pour couper tout le lien avec la Russie.
Il n'y a que nous qui
perdons,
on a perdu du temps.
Merci aussi à Antoine d'avoir été avec nous, l'ingénieur du côté de la Haute-Savoie.
Il s'est exilé en Suisse pour fuir l'occupation européiste dans un pays qui n'est pas membre de l'UE.
Et Antoine qui nous ont dit le maire de Carcassonne a raison. On va voir si vous partagez ce geste sur les réseaux sociaux, si vous êtes OK. C'est d'accord avec le maire de Carcassonne à quasiment 94%.
C'est nos auditeurs, c'est le pays réel.
Dans un instant, on va terminer en vous donnant la parole au 32-16. Ça y est, le périphérique est en pleine opération escargot. Il y a les routiers, il y a les bus contre la hausse des carburants. Vous êtes dans le blocage en ce moment où vous allez le rejoindre. Ou vous le ferez peut-être demain et après-demain, puisque d'autres opérations sont prévues. C'est au 32-16 que ça se passe. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est avec vous, c'est au 32-16, c'est avec Florent Guébali, Charles Consigny, avec Jean-Loup Bonamy. On va terminer cette émission en vous redonnant la parole sur l'essence. Pourquoi ? Parce que là, autour du périphérique parisien, juste à quelques encablures de chez nous, l'opération escargot des bus et des chauffeurs routiers a commencé. Alors, est-ce que c'est les prémices d'une crise quand, en général, les routiers, les chauffeurs de bus rentrent dans la danse ? C'est jamais très bon, donc on va en discuter.
Aujourd'hui, on est très impacté au quotidien. Globalement, c'est 60 euros par jour, par camion, de surplus. Ce qui représente à la fin du mois un peu plus de 30 000 euros de surcoût. Nous, on a besoin de plus d'aide, avec un montant beaucoup plus important et qui soit beaucoup mieux expliqué également. Parce que 20 centimes par litre pour les entreprises TPE, PME qui sont en très grande difficulté. Comment c'est si on est en grande difficulté ou pas en grande difficulté ? Je pense que nous, ce qu'on demande, c'est 30 à 40 centimes de plus pour l'ensemble des transporteurs, pour toute la profession. Ça sera un vrai coup de pouce en plus pour nous.
C'est Julien Bigot, vous venez d'entendre, rencontré par les équipes. Julien Bigot, qui est à la tête d'une entreprise de transport routier qui calcule tout simplement le coût, les répercussions de la hausse des carburants que ça va avoir sur son activité.
Et surtout qui critique la mesure qui a été annoncée vendredi soir de cette aide de 50 millions d'euros avancée par le gouvernement pour les entreprises en grande difficulté. Mais il le dit lui-même, c'est quoi une entreprise en grande difficulté ? Est-ce que c'est suffisant ? En fait, le gouvernement est en train de tomber dans le piège des mesures ciblées, parce que les mesures ciblées, elles oublient toujours quelqu'un, il y a toujours des effets de seuil, c'est jamais assez. Et donc, là, c'était 50 millions vendredi soir, je prends le pari que ça sera plusieurs centaines de millions cette semaine, et si ça continue, on sera plusieurs milliards, parce que le gouvernement sera obligé de le faire. Les transporteurs, là c'est les employés, hein, les employeurs qui sont dans la rue, qui sont en train de manifester, ils peuvent bloquer la France, je veux dire, assez facilement. Donc là, le gouvernement va, à mon avis, être obligé de céder et donner plus.
Florent, est-ce qu'il faut céder ?
Bah, je suis d'accord que si sous la pression le gouvernement va céder, puisqu'il cède depuis 10 ans sous la pression. Le problème,
c'est que
j'aimerais qu'on demande aux acteurs du secteur quelles mesures ils proposent et qu'est-ce qu'ils considèrent être une bonne mesure. Parce que, enfin, il y a un moment où c'est le serpent qui se mord la queue. On peut pas sans arrêt. Enfin, moi, je suis pour qu'on aide les gens. En même temps, on peut pas creuser les caisses de l'État. Enfin, c'est aussi les mêmes qui nous disent le lundi qu'ils veulent de l'aide, le mardi qu'ils veulent pas payer d'impôts, et le mercredi qu'ils en ont marre de l'assistanat. Donc, en fait, à un moment, il faut remettre juste un système politique crédible et cohérent dans notre pays. Et aujourd'hui, tout est détricoté. Donc, il y a plus rien de cohérent.
Jean-Loup.
Non, mais moi, je l'ai dit, je suis contre cette politique du carnet de chèques, parce qu'elle ne résout absolument pas les problèmes
structurels. Et attendez, les GG. La plupart des gens sont contre. J'attends de voir aussi parmi les GG qui devient pour dans 15 jours, quand la contestation sociale devient plus forte. Parce qu'on parle du gouvernement, mais autour de la table, je vais noter, moi.
Non, mais alors, certains vont flancher.
Je note et dans 15 jours, on en reparle.
Je souligne que quand même, parce que dans le prix de l'énergie, de manière globale, hein, il y a quand même le financement de certaines énergies dites renouvelables, notamment les éoliennes.
C'est-à-dire bien sûr, ça va être la faute.
Avec l'assise.
Bah oui, oui.
C'est quand même savoir que là, écolos maintenant cette affaire. Il y a une guerre mondiale en cours, mais non.
Oui, non, mais peut-être que si on n'utilisait pas l'énergie pour financer des éoliennes absolument pas rentables.
En tout cas, si on avait un parc renouvelable plus performant, ça coûterait moins cher à toutes ces personnes.
Ah bah là, en attendant, le financement du renouvelable pèse quand même sur.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que ça ne va pas pousser les gens à passer à l'électrique ?
Ça, c'est vraiment un argument.
C'est une bonne question, mais comme
le transport routier,
c'est une bonne question, mais comme le coût de l'électricité flambe aussi.
Est-ce que le gouvernement va tenir, Charles? Est-ce qu'il peut tenir?
Moi, je pense que il ne devrait pas effectivement rentrer dans cette logique du chèque, etc. Parce qu'effectivement, c'est ouvrir une boîte de Pandore et que tout le monde va lever la main en disant que lui aussi doit être aidé, etc. Donc, à leur place, j'aurais tenu un peu plus longtemps. Le problème, c'est que c'est une question de logique et d'état d'esprit. Ils ne savent pas faire autrement. La moindre contestation se lève, ils se précipitent pour sortir le carnet de chèques des Français.
Ce sont les mêmes. On n'a pas changé de pouvoir. Donc ce sont les mêmes qui, il y a quelques années, au moment de la guerre, du début de la guerre en Ukraine, sortis de Covid, nous expliquaient que c'était normal de faire des chèques à tout le monde.
Bah, Covid, Ukraine, chèque énergie.
De toute façon, les chèques, en fonction du nombre d'entreprises ou de licenciements qu'il y aura, les chèques, on va les faire.
Oui,
si tu veux, il y aura une prise en charge. Il y aura une prise en charge de toutes les manières.
C'est sûr.
Voilà, elle est réelle.
Faudra payer la casse.
Mais les gens qu'on a depuis 15 jours, 3 semaines aujourd'hui, nous ont dit, moi, j'ai ralenti mon activité. Mais je vais peut-être licencier un ou deux chauffeurs. Donc, du chèque, il y en aura.
Le problème, c'est l'extension, parce qu'on va commencer par des choses assez compréhensibles, comme celles que tu décris là. Et puis, donc, on va commencer, par exemple, pour les routiers, etc. Et à la fin, vu qu'on est en France, se terminer par Jean-Loup Bonamy qui va au travail à pied et qui aura droit à un chèque pour l'usure de ses baskets.
Mais c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois.
Ben oui.
Ça avait été démontré.
Que les gens qui vont travailler au vélo, en trottinette ou à pied.
Les chèques carburant avaient été donnés à certains qui n'avaient pas de voiture.
Eh ben oui, l'usure de ma basket.
Mais le transport routier transport routier français, c'est 40 000 entreprises. En France, c'est 750 000 emplois. C'est 99% des besoins quotidiens, le transport routier, puisque c'est comme ça que sont acheminées les denrées alimentaires aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont un pouvoir, alors je vais pas dire de nuisance, mais ils ont quand même un pouvoir de pression. Voilà, les transporteurs routiers. Et si
surtout qu'on a flingué le fret ferroviaire.
Mais tu sais pourquoi?
C'est une immense bêtise.
Parce qu'en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas encore, ça se voit pas tout de suite. C'est-à-dire que les dégâts sociaux, on va les mesurer là peut-être dans un mois ou dans 2 mois. Ce sera en différé. Une fois qu'il y aura de la perte de chiffre d'affaires et que le type va dire, bah écoutez, désolé, j'ai 10 chauffeurs, eh ben il y en a 8, je peux pas les garder. Donc je les licencie. Donc soit tu agis maintenant. Et puis tu dis, bah finalement, est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est un investissement? Parce que derrière, tu aides à maintenir l'activité. C'est toute la question. Au moment du Covid, c'est le gouvernement qui avait fermé. Enfin, c'est le président qui avait fermé. Donc les aides, elles étaient quand même obligatoires. Là, il se dit, finalement, ma guerre, c'est pas nous.
Le problème, c'est que là, on parle de transport.
Et il joue sur le temps.
Il joue sur le temps, sauf que chaque semaine, on se dit, la guerre continue. Donc, il pensait que la guerre durerait 3 semaines. C'est la 5e semaine qui commence. Et on voit pas bien quand va s'arrêter. Surtout que ce qu'on dit pas suffisamment, c'est que c'est pas seulement les activités liées au transport qui vont être touchées. C'est la pétrochimie, c'est les médicaments, c'est les engrais, c'est les matières premières qui explosent. Donc on va avoir une crise économique qui va s'installer.
Selon la durée de l'opération en Iran, c'est possible. Et comme les Américains se sont embourbés dans un truc complètement insoluble, ils vont peut-être avoir du mal à en sortir. Donc effectivement,
on était déjà pas très très en forme.
Voilà. Mais c'est raison de plus, si vous voulez, pour ne
pas. On
n'avait
pas fait les réformes.
Raison de plus pour ne pas gaspiller l'argent public.
Trop tôt.
Quand ça n'est pas encore la tempête, si vous voulez. Alors là, pour ceux qui sont vraiment très lourdement impactés dans leur vie professionnelle, etc., c'est la tempête. Mais en revanche, raison de plus pour faire des économies sur le reste, pour avoir des marges de manœuvre quand il y a un vrai problème.
Donc tu dis que le gouvernement devrait en profiter là aujourd'hui pour faire les réformes économiques.
Je pense que les grandes réformes structurelles qu'on devrait faire depuis longtemps, si on les avait faites, on serait beaucoup mieux.
Oui, enfin là, il n'y a pas de majorité, donc
on serait beaucoup mieux armés. On serait beaucoup mieux armés
pour faire lors du premier mandat.
Oui, mais Macron avait une majorité absolue pendant son premier quinquennat. Il avait toute marge de manœuvre. Bon, le Covid a tué tout ça. Voilà.
Et quand même, le gouvernement de Monsieur Netanyahou nous pourrit la vie au quotidien de plein de façons différentes, quand même. Ça, on peut quand même le dire. Voilà.
C'est intéressant. C'est marrant parce que tu pourrais dire le régime des mollahs nous pourrit la vie, mais tu dis c'est le gouvernement des
années. Là, c'est pas le régime des mollahs qui s'est attaqué lui-même.
On pourrait aussi dire que Donald Trump fait
c'est
la
plus grande.
Oui, mais en attendant,
lui qui s'est attaqué lui-même.
Jean-Loup, en attendant, le grand sujet là des Américains, c'est d'aller chercher l'uranium qui est présent en Iran. C'est donc bien qu'il y a des bons gros stocks d'uranium sur le sol iranien.
On était tous
et qu'il était temps de les arrêter dans leur élan, si tu veux.
C'est quand même l'Iran qui a
mené un sujet. Tu viens de dire toi-même que c'était une opération qui s'enlisait dans une opération insoluble.
Oui, peut-être qu'elle était nécessaire.
L'Iran avec la bombe atomique, ça ne t'inquiétait pas.
Non, visiblement moins que le gouvernement.
Non, mais je sais pas. Non, mais.
Oui, oui.
Oh, oui. Non, moi, c'est une vue d'esprit. Non,
mais bien
c'est
sûr,
une vue d'esprit.
Mais il y avait un très bon accord qui avait été obtenu par Barack Obama en 2015. En fait.
Il n'a pas été respecté, on le sait aujourd'hui.
On a Thomas, chef d'entreprise. Bonjour Thomas.
Puisqu'il y a ces fameux 400.
Bonjour.
Il faut soutenir ceux qui veulent faire les blocages et les opérations escargot, Thomas.
Mais bien sûr, parce que on va se retrouver pas dans la même catégorie que les gilets jaunes, parce que plus personne n'a de moyens de le faire. À l'heure actuelle, on est tous impactés.
Bah oui, c'est ça.
Que ce soit les chefs d'entreprise, les salariés, les libéraux, toutes les professions se retrouvent impactées parce que on se retrouve dans une dynamique avec un gouvernement qu'on a rien à foutre. Clairement, enfin voilà.
Non, ils n'ont pas rien à faire, mais ils sont démunis parce qu'ils n'ont pas d'argent.
En place. Les autres pays ont été capables de le faire. Ouais. Ils sont pas capables d'écouter. Ils ne se rendent pas compte que derrière, en fait, ils enlèvent le pain à tout le monde. C'est que là, aujourd'hui, on parle d'une augmentation sur les carburants, mais derrière, ça va. L'inflation, on la voit partout. L'augmentation, on la sent partout, que ce soit pour faire des courses, que ce soit sur nos charges, que ce soit sur... Moi, demain, j'aimerais bien dire à mon personnel, oui, demain, je peux vous payer 300-400 euros de plus.
Thomas, c'est vous qui aurez eu le mot de la fin, mon cher Thomas. Merci d'avoir été avec nous. Et on pourra continuer d'en discuter demain, parce que nous serons avec le ministre de l'Industrie demain. Parce que les GG seront au salon Global Industrie.
Encore un bel emploi fictif.
À Villepinte. Nous serons avec tous les chefs d'entreprise. Ils seront des centaines demain à Villepinte.
À mon avis, ils vont parler de ça, surtout.
Bien évidemment. Au moment où, au contraire, on essaie de réindustrialiser la France, on voit que l'énergie devient l'enjeu numéro un. Donc, les grandes gueules au cœur du réacteur économique demain au Salon de l'Industrie à Villepinte avec Laurent Varton-Martinez, Bruno Poncet, Antoine Diers et le ministre. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Nous, on va évidemment parler de la mobilisation des routiers dans un instant, dans Estelle Midi, pour réclamer des aides face à la flambée des prix des carburants. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ou est-ce que vous avez peur que ça prenne de l'ampleur? Eh bien écoutez, vous nous appelez dans un instant au 3216. On va parler de cette proposition de loi déposée par des députés de droite et du centre pour pouvoir être payé plusieurs fois dans le mois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse paye, eh bien t'aurais plein de petites payes. Est-ce que être payé à la semaine, c'est quelque chose qui vous plairait, comme ça se fait en Angleterre par exemple? Là encore...
Oui, mais parce que tu payes ton loyer à la semaine en Angleterre.
Oui, mais alors dans ce cas, il faudrait évidemment s'adapter. Sinon, ça ne passera pas. On parlera aussi de cette nouvelle tendance chez les jeunes. On les appelle les Sephora Kids. Ce sont ces gamins de 12 ans, accros déjà aux cosmétiques. On rattachera ça aussi.
Ces gamines, peut-être.
Oui, ces gamines. Oui, bon, ça peut s'étendre. Et puis, on parlera aussi de cette tendance également de la pole dance chez les enfants. Alors, est-ce que vous trouvez ça plutôt amusant ou est-ce qu'au contraire, ça vous déprime, ça vous choque?
Ça hyper inquiétant.
Évidemment. Écoutez, il y a la pole dance cartonne chez les gamines. Et puis enfin, déjeuner avec ses collègues, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Ça sera notre débat de 14h.
Il y a un petit truc.
Tu réponds pas à déjeuner entre collègues?
Ben on déjeune, nous, entre collègues. Ah, ça se passe.
Et pourquoi ça s'arrête?
Ils vont au paddle.
Parce que souvent, tu
notre
déjeunes toujours avec les mêmes.
C'est un enfer dans l'oreillette.
Tu déjeunes toujours avec les mêmes. Et le jour où tu veux déroger et aller manger avec une autre copine, tout le monde te regarde en disant, ah d'accord.
Parce que tu manges tous les jours avec tes collègues?
Moi non, je peux pas déjeuner parce que de midi à 15h, j'ai une émission.
Il y a un problème.
Voilà. Exactement.
Tu préfères
te baigner à la mer ou à la piscine?
À la piscine.
Face à la mer.
Je veux dire, quand je vais dans un Bretagne, la piscine parce qu'elle est chauffée, mais ailleurs, la mer.
Moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant, les types qui en Polynésie, tu sais, ou au Bahamas ont une piscine.
Alors, je vais te dire, moi, ça m'arrive d'aller dans des hôtels qui ont une piscine vraiment devant la plage, t'as la mer qui est là, magnifique. À 30 degrés, tout, la piscine avant, et je me baigne dans la piscine.
Évidemment.
Jamais dans la mer, de très loin.
Parce que bon, allez, 32
la mer, il y a des algues, il y a des poissons, il y a des crabes. Je déteste ça. J'ai besoin d'une piscine avec du chlore, moi.
Je suis tellement d'accord.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.